circulation du virus reste très active. Donc, c'est un virus dont on ne comprend pas complètement encore le fonctionnement. Regardez même en France, le nombre de contaminations reprend parce que c'est vrai que les jeunes en particulier ne respectent pas les mesures barrières et pourtant, en France, ils étaient en pleine canicule, hein, avec des températures extrêmement hautes. Donc, on voit bien que la chaleur n'est pas une barrière au virus. En Afrique, évidemment, la situation semble être différente. Donc, on sait très peu de choses. C'est un nouveau virus qu'on a découvert fin de l'année 2019. Et tous les jours, nous apprenons de lui comment nous cohabitons avec lui. Et on se rend compte que suivant les aires géographiques, les habitudes des gens, les comportements des gens, les comportements socio-culturels des gens, ben, la transmission est différente. Elle peut être plus ou moins violente, plus ou moins virulente, oui.
Et que faire si je vis avec quelqu'un qui a le coronavirus? Comment est-ce que je peux me protéger?
Alors, ben, c'est un cas effectivement très répandu, puisque on voit très bien que l'infection augmente. Donc autour de nous, nous avons des amis, des parents qui peuvent être contaminés. Donc là aussi, les mesures barrières, isoler la personne qui se sait contaminée doit s'isoler et faire attention. Donc porter des gants, ne pas utiliser les mêmes objets que le parent non contaminé. Donc il faut isoler la personne le temps que le virus soit neutralisé et éliminé, donc que la personne soit prise en charge. Cela, évidemment, ne signifie pas que l'individu doit être stigmatisé. Par exemple, en Afrique, malheureusement pas en Afrique, au Congo, parce que c'est pas dans partout en Afrique la stigmatisation, ce n'est pas vrai. Mais au Congo, c'est une maladie qui est stigmatisée. Donc les gens ont peur de dire qu'ils ont le coronavirus. Et là, c'est très embêtant, justement, parce que pour s'isoler, et quand on a peur de la stigmatisation, cela peut conduire à des mauvais comportements, juste parce qu'on a peur que les autres sachent. Donc, il faut que chacun soit responsable. Une personne porteuse du virus n'est pas un ou une pestiférée, non. Il faut juste qu'elle s'isole le temps de l'éliminer, ce virus.
Ça, c'est très important de savoir que la personne qui a le virus doit d'abord en être consciente pour s'isoler. Et comment la personne peut savoir qu'elle a le virus pour qu'elle s'isole?
Alors, il y a des symptômes comme le rhume. Hein, puisque le virus, c'est un virus qui aime les voies nasales, respiratoires, hein, il aime se nicher là, le virus, donc on a un rhume, on a une toux, et donc ce sont une fièvre, donc ce sont les symptômes qui doivent alerter, hein, toux, rhume, fièvre. Donc si on a de tels symptômes, voir le médecin qui décidera si vous devez faire un test PCR, un test pour voir si vous êtes porteur du virus ou non. Donc, mais ne pas hésiter là aussi à faire le test, parce que c'est se protéger soi-même, mais c'est protéger aussi son entourage. Hein.
Merci beaucoup. Est-ce qu'au niveau du Congo, la prise en charge contre la pandémie de coronavirus est à la portée des populations?
Alors oui, parce que la prise en charge est gratuite, hein. Donc c'est l'État qui prend en charge tous les cas de malades du coronavirus. Donc à ce jour, bon, comme les systèmes de santé n'ont pas été submergés par le nombre de cas, donc c'est la situation est sous contrôle. Donc tous les malades identifiés sont pris en charge, oui, gratuitement. Et même le test de dépistage est gratuit.
Alors, il y a l'auditeur Alphonse Mwaki depuis la RDC qui a une question à propos des masques de protection. Il dit que est-ce que les masques chirurgicaux protègent mieux que les cache-nez, puisque beaucoup de gens n'ont pas l'argent pour s'acheter les masques chirurgicaux. Donc, ils peuvent utiliser peut-être, je sais pas, des tissus, des t-shirts pour se présenter. Mm-hmm. Est-ce que ces outils de protection offrent la même garantie pour se prévenir de la maladie?
Non, bien sûr, parce que les masques chirurgicaux ont été faits en usine, ils ont été ensuite testés, contrôlés pour savoir quelle est la grosseur des particules qui peuvent traverser ce masque, donc, alors que le masque artisanal, il y a différents tissus qui sont utilisés. On sait très bien que même la chaleur se transmet différemment, hein, d'un tissu à un autre. Donc évidemment que on ne peut pas les comparer. Qu'un masque chirurgical va mieux protéger parce que il a été fait avec avec un contrôle de qualité assuré, ce qui n'est pas le cas du masque artisanal. Mais cependant, le masque artisanal assure une certaine protection. Donc, on va dire, si elle apporte une protection de 20-30% contre un possible, virus transmis, donc si on a en face de soi une personne qui tousse ou qui éternue, alors que le masque chirurgical, pardon, donnera une protection deux fois plus importante, certes. Mais toujours est-il que ce masque artisanal apporte une certaine protection. Donc, il ne faut pas s'en séparer si on n'a pas les moyens d'avoir un autre type de masque. Et si on respecte la distanciation, si on respecte les autres mesures, cela peut donner assurer une plus grande protection, n'est-ce pas? Donc, voilà, si on sait qu'on a un masque artisanal, bon, faire bien attention à la distance, par exemple, hein, et ne pas se mettre juste nez à nez avec quelqu'un et avec le masque, par exemple. Hein. Voilà.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Professeur, nous savons que vous êtes impliqué dans la lutte contre le COVID-19 et votre institution participe d'ailleurs au diagnostic national de l'infection et vous conduisez aussi des activités de recherche. Comment ces recherches participent-elles réellement dans le combat contre le coronavirus? On veut savoir si elles sont orientées vers les traitements ou bien vers la découverte d'un vaccin ou bien vers autre chose.
Alors, merci pour cette question parce qu'effectivement, on parle beaucoup de la recherche qui est conduite en Europe, en Russie, ici, en Chine, aux États-Unis, mais très peu de la recherche qui est conduite en Afrique. Il y a une recherche qui est conduite en Afrique. Nous, à la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale, la première activité de recherche que nous faisons, c'est déjà sur les tests de diagnostic rapide. Beaucoup de tests sont élaborés il y a plus de 300 tests qui existent dans le monde, mais à ce jour, aucun d'eux n'est fiable pour pouvoir vraiment donner un diagnostic. Donc, l'industrie pharmaceutique élabore ces tests et nous les testons dans la vraie vie. Donc, en comparant, par exemple, le test PCR avec le test sérologique en tenant compte du statut clinique pour pouvoir voir quelle information, quelle valeur diagnostique peut avoir le test de diagnostic rapide. Nous comparons donc la sensibilité, la spécificité des tests de diagnostic rapide mis à disposition pour pouvoir, après, donner nos résultats au ministère de la Santé pour décider si un test de diagnostic rapide peut être utilisé, sachant que l'outil actuel de diagnostic, la PCR, est un outil onéreux et qui demande une certaine formation. Et donc, nous, dans les villages, même en ville, au Congo, il n'y a que deux endroits, deux institutions, mon institution et le Laboratoire national de santé publique, qui sont capables d'assurer ce diagnostic. Donc, vous comprenez qu'il y a besoin de diagnostics plus facile à être utilisé tout en étant extrêmement fiable. Donc nous contribuons à cela. Comprendre l'infection. Vous avez dit très justement en début d'entretien que l'Afrique est est beaucoup moins touchée que les autres continents par rapport à cette infection. Quelle en est la raison? Nous devons faire des études, de la recherche pour comprendre, expliquer et peut-être après cela donnera aussi des pistes en matière pour le vaccin parce que là aussi, en fonction du contexte géographique, est-ce qu'un vaccin adapté pour l'Europe, pour la France sera adapté pour une situation en Afrique? C'est donc, il faut que nous menions des recherches donc sur le terrain pour pouvoir décrire l'infection, l'épidémiologie de l'infection pour pouvoir après savoir quel est l'outil de prévention ou thérapeutique le plus adapté. Et donc là, par exemple, nous, on regarde les sujets asymptomatiques, les gens qui sont pas malades, mais qui portent le virus. Nous regardons quelle est cette proportion dans la population congolaise. Bon, ça, ce sont des données très, très importantes. L'infection chez l'homme et chez la femme. Nous regardons les réponses immunologiques. Ce sera très important après pour la future évaluation du vaccin sur notre population. Donc, ce sont des travaux que nous conduisons actuellement. Nous travaillons aussi sur un outil de diagnostic encore plus précis qui utilise la PCR, mais encore plus précis en collaboration avec l'IRD en France. Voilà. Et nous nous préparons par rapport au vaccin. Justement, nous, en tant qu'Africains, nous nous préparons aussi pour ce vaccin. Comment ? Justement, quand nous travaillons sur nos populations, comprendre l'infection, c'est notre contribution déjà à l'utilisation, au développement de ce vaccin. Parce qu'un vaccin, quand le vaccin est fabriqué, sa vie, son développement continue. Parce que déterminer comment il doit être appliqué fait partie du développement du vaccin. Et là, nous pouvons contribuer en tant qu'Africains, et c'est le travail que nous faisons en étudiant la pandémie, l'infection Covid sur nos populations.
Les pays africains ont déjà levé les mesures qu'ils avaient prises pour lutter contre le coronavirus et Brazzaville au Congo, dès lundi 24 août 2020, les frontières aériennes fermées depuis mars vont être rouvertes. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux gens à partir du moment où, enfin, les conseils à donner aux gens pour que ces personnes-là continuent à se protéger, puisque nous savons que le virus est encore là, malgré l'ouverture de frontières, malgré la levée des mesures prises pour lutter contre le coronavirus.
Bah, c'est de respecter, de rester toujours vigilant, à savoir masque, gel hydroalcoolique, distanciation. Continuer à respecter, continuer à malheureusement à se dire que la personne qui est en face de moi est peut-être porteuse. Est-ce que je veux qu'elle me contamine? Non. Alors, voilà, je dois me comporter comme si j'avais à chaque fois en face de moi une personne porteuse du virus. Et je pense que si chacun se dit cela, alors nous ferons attention. Et on fera attention à soi, mais en faisant attention à soi, nous protégerons les autres aussi. Voilà. Donc, il faut continuer vraiment à rester extrêmement vigilant et respecter les mesures barrières tant que ce vaccin n'est pas disponible. Puisqu'il n'y a pas de traitement non plus. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement spécifique contre cette maladie. Donc, tous les espoirs sont dans le vaccin. Mais tant que ce vaccin préventif n'est pas là, nous devons tous faire attention.
Et à votre niveau, vous savez combien de temps pourrait prendre les recherches avant d'arriver à un résultat probable de découverte d'un vaccin ou d'un traitement efficace, vraiment?
Je crois que le traitement semble beaucoup moins avancé que le vaccin. Il y a beaucoup d'essais de molécules existantes, à part remdesivir et puis dexamethasone qui ont montré qu'il y a vraiment une efficacité, mais l'un c'est pour le COVID-19 sévère. Donc il y a encore besoin d'essayer de trouver des traitements prouvés efficaces, pas des traitements dont chacun dit qu'il est efficace sans preuve, mais des traitements prouvés efficaces. Il y a encore besoin de travail. Pour le vaccin qui a l'air là, c'est une course tellement rapide. Nous espérons que l'année prochaine, un premier candidat vaccin sera devenu vaccin fin 2021. C'est l'espoir, puisque il y a déjà 3 vaccins qui sont en phase 3 là en 2020. Donc si les procédures vont aussi vite, si un de ces candidats vaccins montre une efficacité satisfaisante pour les autorités de régulation, moi je pense que d'ici 2021, fin 2021, il pourrait il pourrait y avoir un vaccin. Ce serait une première dans l'histoire des vaccins, mais on sera en 2021, donc au 21e siècle, peut-être que voilà, les choses doivent aller plus vite. Quand les fonds sont là, la science peut avancer plus rapidement et que tout le monde va dans la même direction, les choses peuvent avancer plus rapidement, absolument.
Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'être notre invité pour cette émission « Votre santé, votre avenir ».
Merci pour cette invitation et pour cet échange. Et portez-vous bien, prenez soin de vous.
C'était un autre entretien avec la professeure Francine Nkumi, biologiste moléculaire et présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale à Brazzaville, en République du Congo. À présent, nous vous invitons de suivre Carnet de santé.
Cette semaine, dans Carnet de santé, coup de projecteur sur le bégaiement, un trouble de la parole caractérisé par des répétitions et prolongations involontaires des sons. Et un expert apporte des éclaircissements sur le bégaiement, une pathologie dont les causes sont encore peu connues. Bonjour, Lénore Moudou en votre compagnie. Je suis ravie de vous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Aujourd'hui, nous explorons le bégaiement, un trouble de la parole caractérisé, entre autres, par des répétitions et prolongations involontaires des sons, mots ou phrases et par des pauses silencieuses involontaires. Selon la Fondation américaine du bégaiement, plus de 70 millions de personnes dans le monde souffrent de ce handicap. Les bègues ou personnes qui bégaient sont souvent victimes de stigmatisation, voire de discrimination. Dans certains pays, les enfants qui bégaient sont accusés de sorcellerie, comme c'est le cas au Rwanda. Eric Buguru-Boussa et Venus Nshiriminwana de la VOA racontent.
Environ 10 millions de personnes bégaient en Afrique et plus de 70 millions dans le monde. Dans certaines régions d'Afrique, leur vie n'est pas facile. Gilbert Kubwimna du Rwanda a découvert que de nombreux souffrants du bégaiement se retrouvent parmi les mendiants dans les rues de la capitale Kigali. Il y a 3 ans, il a créé Love with Action Center avec pour objectif d'aider les enfants handicapés, y compris ceux qui souffrent du bégaiement.
Like in the rural areas. They are marginalized.
Dans les zones rurales, ils sont marginalisés car les gens ont une compréhension différente des personnes handicapées. Ils attribuent leur handicap à l'œuvre des démons ou de la sorcellerie ou de la punition divine. À cause de cette stigmatisation et de la discrimination, les mamans décident de ne pas les montrer en public, si bien que ces enfants ne vont pas à l'école.
Les gens qui bégaient peuvent passer inaperçus. On se rend compte de leur handicap que lorsqu'ils s'expriment. Selon Gilbert, suivre ces enfants qui bégaient nécessite beaucoup d'attention.
Ce travail nécessite la patience. Être patient pour les soutenir, être patient pour les soigner, être patient pour communiquer avec eux, être patient pour prendre soin d'eux. Vous devez être très patient car ils ont besoin d'amour. C'est ainsi que nous communiquons avec ces enfants qui ne peuvent pas communiquer, qui ne peuvent pas parler normalement comme les autres.
À quelques kilomètres de Kigali, la capitale rwandaise, nous avons rencontré Jean-Baptiste, un maçon de 30 ans qui souffre de troubles de la parole. Il explique à quel point il lui est difficile de parler rapidement.
Lorsque vous voulez engager une conversation et parler rapidement, vous commencez à bégayer. Vous essayez de respirer et de faire passer le mot, mais vous trouvez cela difficile et douloureux.
En tant que maçon, Jean-Baptiste a besoin de communiquer avec ses collègues. Il a réussi à surmonter le problème avec le soutien de sa famille et de la communauté locale. Son employeur, Jean-Léonard, réaffirme la différence entre le handicap et l'incapacité.
Ils sont normaux. Les gens qui les marginalisent ne savent rien d'eux, des gens qui ne sont pas habitués à eux, qui n'ont probablement jamais rencontré quelqu'un qui bégaye. Mais lorsque vous vivez et travaillez avec des gens qui bégayent, vous apprenez à quel point ils peuvent être extrêmement utiles et encore mieux s'exprimer que les gens parlant normalement.
Jean-Léonard était fier de nous montrer la maison construite par Jean-Baptiste de la Fondation au toit. Bien que le BGMA puisse avoir un impact sur l'estime de soi et les interactions avec les autres personnes, la confiance en soi est essentielle pour le surmonter.
Quelle est l'attitude dans votre communauté face aux personnes affectées par cette pathologie, notamment le bégaiement? Voici certaines de vos réactions sur Facebook. Glory Chikala écrit « Je suis bègue de naissance, mais j'ai réussi à surmonter ce trouble de la parole. Le bégaiement est souvent très difficile de vivre avec dans notre communauté. Nous sommes humiliés à chaque fois qu'on veut s'exprimer. » Alphonse Mbouaki répond « Ici, on n'accepte jamais les personnes qui bégaient fortement, notamment les enseignants, prédicateurs, les orateurs, journalistes, chanteurs et même pas des choristes. » Et enfin, Dulcine Moquet dit « Je bégais, mais j'ai appris à le maîtriser et j'aide les jeunes à pouvoir s'en débarrasser. » Selon les experts, le bégaiement a souvent des répercussions psychologiques et sociales pour la personne affectée et certains bègues songent même au suicide. Comment comprendre le bégaiement et quelle prise en charge en Afrique? Abena Assiedwa Owusu Antwi est orthophoniste à Accra et membre de l'organisation Speech and Language Therapy Ghana. Elle nous en dit plus.
So there's a lot of research that's being done to really know the cause of stuttering.
Beaucoup de recherches sont en cours pour connaître la cause du bégaiement, mais on sait déjà que ce handicap a un aspect génétique. Si dans une famille, peut-être un grand-père ou une grand-mère bégayait, il y a une probabilité qu'un membre quelconque de la famille bégaye aussi. Le problème commence dans l'enfance. C'est à partir de 2 ans que l'enfant commence à développer son langage. Si le bégaiement de l'enfant persiste au-delà de 5 ans, il est probable qu'il bégayera à l'âge adulte. C'est ainsi que nous réalisons que cet enfant va bégayer. Et à chaque fois que les parents remarquent que leur enfant commence à bégayer, la meilleure chose à faire est de demander de l'aide.
La patience et la tolérance sont essentielles durant l'interaction avec les bègues. Mais lorsqu'une personne bégaye, certains ont du mal à se concentrer sur le contenu de leur message. Et vous, quelle est votre réaction lorsque vous échangez avec une personne qui souffre de bégaiement prononcé? Owal Saliou de la VOA a vos réactions depuis Abuja, au Nigeria.
J'ai un ami qui bégaye. Quand il me parle, j'ai envie de tirer les mots de sa bouche. Et c'est ce que je ressens. En l'écoutant, j'ai hâte de parler à sa place, surtout quand je comprends ce qu'il a envie de dire.
J'ai l'impression que c'est ennuyant et une perte de temps parce que lorsque vous leur parlez, vous voulez obtenir vos réponses rapidement. Vous voulez communiquer efficacement avec eux, mais ils ne font que vous faire perdre votre temps et vous devez donc passer à la personne suivante pour obtenir une réponse.
C'est la fin de cette édition hebdomadaire de Votre Santé, Votre Avenir. Ce programme était consacré à la lutte contre le coronavirus au Congo. La professeure Francine Ntumi a expliqué pourquoi il est important de se faire dépister et quelles précautions il faut continuer de prendre pour se protéger. La professeure Francine Ntumi est biologiste moléculaire et présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale à Brazzaville en République du Congo. Elle est aussi très impliquée dans la formation des étudiants et des personnels en recherche biomédicale. Dans la seconde partie de notre magazine, vous avez suivi Carnet de santé avec Lénore Moudou. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. À la présentation, Nani Tetelani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.